Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 20. L'entrevue de Perron, le désaccord. La petite troupe arriva enfin à 2 milles de la place forte de Perron, autour de laquelle campait l'armée du duc de Bourgogne, toute prête, supposait-on, à envahir la France. En réponse à ce déploiement de force, Louis XI avait rassemblé des troupes nombreuses auprès de Saint-Maxence pour mettre son puissant vassal à la raison. Le comte de Crèvecœur, avec sa suite et son prisonnier, approchait donc de Péronne. Il était 3 heures de l'après-midi. La petite troupe chevauchait à travers les jolies clairières d'une grande forêt qui couvrait les approches de la place du côté de l'est. Ils rencontrèrent en cet endroit deux personnages de haut rang, à en juger par leur costume et par la suite nombreuse qui leur faisait escorte. Comme ils avaient le faucon au poing et que leurs varlets tenaient en laisse des épagneuls et des lévriers, il n'était pas difficile de deviner qu'ils se livraient au plaisir de la chasse au faucon. Mais en apercevant Crèvecœur, au lieu de continuer à quêter quelques hérons sur les bords d'un long canal, ils s'avancèrent vers lui au galop de leurs chevaux. « des nouvelles, comte de Crèvecœur! Crièrent-ils tous les deux. Voulez-vous vendre des nouvelles ou en acheter, ou faire un loyal échange? Je ferai un loyal échange, messire, dit Crèvecœur, après les avoir salués avec courtoisie, si je vous croyais en possession de nouvelles assez importantes pour faire l'équivalent des miennes. Les deux chasseurs échangèrent un sourire, et le plus âgé des deux prit la parole. Il avait ce que l'on peut appeler une belle prestance baronniale, avec une de ces figures brunes à physionomie attristée, qui, au dire des physionomistes, dénote un penchant à la mélancolie et présage une fin tragique. Crèvecœur, dit-il à son compagnon, a été en Brabant, au pays des marchands, et il en a appris les pratiques. Nous ne serons pas de force si nous optons pour un échange. Messire, dit Crèvecœur, il est de toute justice que le duc ait les prémices de mes nouvelles, tout comme le seigneur prélève son tribut avant l'ouverture du marché. Mais dites-moi, vos nouvelles sont-elles tristes ou gaies? Celui à qui il s'adressait particulièrement était un homme plein de vie, avec un œil d'une grande vivacité, tempéré par l'expression de gravité et de réflexion de sa bouche, surtout de sa lèvre supérieure. À l'ensemble de sa physionomie, on reconnaissait l'homme qui voit et juge rapidement, mais qui met une sage lenteur à former une résolution et à exprimer une opinion. C'était le fameux chevalier, connu dans l'histoire, sous le nom vénérable de Philippe de Comines. Il vivait alors dans la familiarité du duc de Bourgogne, et c'était un de ses conseillers les plus éprouvés. Ce fut lui qui répondit à Crèvecœur sur la nature des nouvelles, dont lui et son compagnon, le baron d'Imbercourt, étaient dépositaires. Elles sont, dit-il, semblables à l'arc-en-ciel, et changent de teinte selon le point où l'on se place pour les regarder, clair sur un nuage sombre, sombre sur un nuage clair. Mais l'on n'a jamais vu pareil arc-en-ciel, soit en France, soit en Flandre, depuis celui du déluge. Mes nouvelles à moi, reprit Crèvecœur, sont absolument comme la comète, sombres, sauvages et terribles en elles-mêmes, avant-coureurs de maux plus grands et plus terribles encore. Nous ferons bien d'ouvrir nos ballots, dit Comines à son compagnon, ou bien nous nous laisserons couper l'herbe sous le pied par de nouveaux arrivants, car nos nouvelles sont publiques. En un mot, Crèvecœur, écoutez et soyez surpris. Le roi Louis est à Péronne. Vous voilà bien étonné. Au moment où vous nous avez quittés, la conférence entre les commissaires de France et de Bourgogne était rompue, et il ne restait plus, en apparence, aucune chance de conciliation. C'est vrai, et nous ne rêvions plus que de guerre. La suite a été réellement comme un rêve, dit Comines, si bien que je m'attends presque à me réveiller et à découvrir que c'en est un. La veille, le duc, en conseil, avait si furieusement protesté contre tout délai que l'on convint d'envoyer un défi au roi et de marcher aussitôt contre la France. Toison d'Or, commissionné à cet effet, avait endossé son costume officiel, et il mettait le pied à l'étrier, lorsque voilà Montjoie, le héros de France, qui arrive à cheval dans notre camp. Nous croyons naturellement que le roi Louis a devancé notre défi, et nous commençons à considérer quel sera le ressentiment du duc contre les conseillers dont la ville l'a empêché d'être le premier à déclarer la guerre. On assemble un conseil à la hâte, et quelle est notre surprise d'apprendre du héros que Louis, roi de France, est à cheval, à 1 heure de chemin à peine, avec l'intention de faire visite à Charles, duc de Bourgogne, avec une faible escorte, espérant que leurs différends pourraient être réglés dans une entrevue personnelle. Vous me surprenez, messire, dit Crèvecœur, mais pas autant que vous pouviez vous y attendre. La dernière fois que je me suis trouvé au Plessis-les-Tours, l'homme de confiance du roi, le cardinal Labalu, irrité contre son maître et bourguignon au fond du cœur, m'a insinué qu'il amènerait Louis à se placer de lui-même en telle passe, que le duc pourrait dicter à sa guise les conditions de la paix. Mais je n'aurais jamais cru un vieux renard comme Louis capable de venir se prendre de lui-même au piège. Et le duc, qu'a-t-il dit? Quelques paroles seulement, mais de fières paroles comme toujours, répondit Comines. Qui de vous, demanda-t-il, a été témoin de mon entrevue avec mon cousin Louis, après la bataille de Montlhéry, quand j'ai eu la légèreté de l'accompagner jusque dans les retranchements de Paris, avec une dizaine de personnes seulement, et de me mettre ainsi à la merci du roi? Je répondis que la plupart d'entre nous avaient assisté à l'entrevue, et qu'aucun de nous n'oublierait jamais la belle peur qu'il s'était plu à nous faire. Eh bien, dit le duc, vous m'avez blâmé de ma folie, et je vous ai confessé que j'avais agi comme un jeune écervelé. Je n'oublie pas, d'autre part, que, comme c'était du vivant de mon père, mon cousin Louis avait beaucoup moins d'intérêt à se saisir de ma personne que je n'en aurais, moi, aujourd'hui, à m'assurer de la sienne. Néanmoins, si mon royal parent vient ici en toute simplicité de cœur, comme je suis allée à lui dans ce temps-là, il sera accueilli royalement. Mais s'il ne simule cette confiance que pour me tromper et m'aveugler, en vue d'accomplir un de ses desseins politiques, qu'il prenne garde à lui. Alors, après avoir retroussé ses moustaches et frappé du pied, il nous a commandé de monter à cheval pour aller à la rencontre d'un hôte si extraordinaire. Et là-dessus, vous êtes allé à la rencontre du roi, dit le comte de Crèvecœur. Il y a encore des miracles. Quelle était sa suite? Aussi peu nombreuses que possible, répondit Humbercourt. Une vingtaine d'archers écossais, tout au plus. Quelques chevaliers et gentilshommes de sa maison. Et où lâche-t-il? Demanda Crèvecœur. Oh, cela, répondit Comines, c'est encore ce qu'il y a de plus surprenant dans l'histoire. Notre duc proposa de laisser une des portes de la ville à la garde des archers écossais et d'y établir un pont de bateau. Louis aurait logé dans la maison voisine qui appartient à un riche bourgeois, Gilles Horten. Mais le roi, ayant remarqué les bannières de Lot et de Pensil de Rivière qu'il a bannies de France, eut peur, à ce qu'il paraît, de loger si près de deux réfugiés et de deux mécontents, et demanda à être logé dans le château de Péronne, et c'est là qu'il demeure. Miséricorde! S'écria Crèvecœur. Cela peut s'appeler mettre sa tête dans la gueule du lion, après s'être aventuré dans son antre. Et maintenant, Crèvecœur, voilà la fin de nos nouvelles. Que vous en semble? Je les comparerais volontiers, répondit Crèvecœur, à une mine chargée, à laquelle, j'en ai bien peur, je suis destiné à mettre le feu. Ami gentilhomme, chevauchez tout près de moi, étrier contre étrier, et quand je vous aurai dit ce qui vient de se passer dans l'évêché de Liège, vous penserez comme moi que le roi Louis aurait aussi bien fait d'entreprendre un pèlerinage dans les régions infernales que de choisir aussi mal son temps pour venir à Péronne. Le roi, en effet, était à la citadelle de Péronne. Le balafré montait la garde à la porte de la chambre à coucher. Suivez-moi, lui dit le roi en passant. L'archer le suivit dans la chambre à coucher, et une fois là demeura fixe, silencieux et immobile, attendant le bon plaisir du roi. Avez-vous reçu récemment des nouvelles de votre neveu? Lui demanda le roi. Et il ajouta en s'adressant au gentilhomme de la chambre. Retirez-vous, mes maîtres, car il s'agit d'affaires qui ne concernent que moi. Certainement, plaise à votre majesté, répondit le balafré. J'ai vu ce soir même le valet Charlet, que mon parent a dépêché de Liège, ou d'un château de l'évêque, tout près de Liège, où il a déposé les dames de croix en sûreté. Notre-Dame des cieux en soit louée, s'écria le roi. Es-tu bien sûr de ce que tu dis, sûr de cette bonne nouvelle? Aussi sûr qu'on peut l'être, répondit le balafré. Je crois que ce valet a des lettres des dames de croix pour votre majesté. Dépêche-toi de les avoir, dit le roi. Donne ton arquebuse à un de ces coquins, à Olivier, à quelqu'un. Notre-Dame d'Embrun soit louée. Je remplacerai par une grille d'argent la grille de son maître-autel. Le valet envoyé par Quentin avant la prise du château arriva avec les lettres. Les dames de croix le remerciaient en termes pleins de froideur de la courtoisie qu'il leur avait montrée pendant le temps qu'elles avaient passé à sa cour, et un peu plus chaleureusement de leur avoir permis de se retirer et de les avoir envoyées en lieu sûr hors de son royaume. Ces expressions firent rire le roi, au lieu de l'offenser. Alors il demanda à Charlet, avec un intérêt visible, si la troupe n'avait pas eu quelque sujet d'alarme ou n'avait pas été attaquée en route. Charlet, personnage stupide, et qui avait été choisi justement pour cela, fit un récit très confus. Louis lui demanda alors, minutieusement et en détail, quelle route ils avaient suivie pour arriver à Liège. Il montra le plus vif intérêt quand l'autre lui raconta qu'à partir de Namur, ils avaient suivi la rive droite de la Meuse au lieu de la rive gauche, comme il était dit dans leurs instructions. Le roi congédia alors le valet avec un petit présent. Ensuite, il soupira comme un homme dont la poitrine est soulagée d'un pesant fardeau, marmotta des prières de reconnaissance avec un air de piété profonde, leva les yeux au ciel, et n'eut rien de plus pressé que de former de nouveaux projets d'ambition, plus sûrs que les premiers. Le lendemain de l'arrivée du roi, il y eut une chasse, puis un festin d'une magnificence toute particulière. Des ordres avaient été donnés à cet effet, et, en rentrant à Péronne, le roi Louis trouva un banquet préparé avec toute la profusion et toute la magnificence qui convenait aux possesseurs des Pays-Bas, le pays le plus riche de l'Europe. Au haut bout de la longue table, qui pliait sous la vaisselle d'or et d'argent, était assis le duc, ayant à sa droite son royal hôte, assis sur un siège plus élevé que le sien. Le banquet était commencé depuis longtemps quand Comines et d'Hymbercourt entrèrent enfin, et, après avoir salué les deux princes, prirent en silence possession des sièges qui leur avaient été réservés. Qu'est-ce à dire, messeigneurs? S'écria le duc. Il faut que vous ayez fait bien bonne ou bien mauvaise chasse pour avoir été si loin et vous être si fort attardé. Mais sire Philippe de Comines, vous êtes abattu. Il faut que d'Hymbercourt vous ait gagné un gros pari. Vous êtes philosophe et vous devriez faire à mauvais jeu bonne figure. Par Saint-Georges, d'Hymbercourt a l'air aussi triste que vous. Qu'y a-t-il donc? Vous n'avez point rencontré de gibier? Vous avez perdu vos faucons? Une sorcière a croisé votre chemin? Ou bien vous avez rencontré le chasseur sauvage dans la forêt? Par mon honneur, on dirait que vous êtes ici à un enterrement, et non à une fête. Pendant que le duc parlait, tous les regards s'étaient tournés vers d'Hymbercourt et vers Comines. Leur embarras et leur abattement étaient si visibles que la bruyante gaieté, excitée par les excellents vins de l'amphitryon, tomba d'un seul coup. Et sans pouvoir se rendre compte du changement qui s'était opéré dans leurs esprits, les convives se parlaient tout bas, comme dans l'attente d'une nouvelle étrange et importante. Que signifie ce silence, messire? Reprit le duc en haussant le ton de sa voix, qui était déjà assez rude. Si vous apportez au milieu d'une fête ces figures étranges et ce silence, plus étrange encore, vous auriez mieux fait de rester dans les marais à quêter le héron, ou plutôt le coq de bruyère et le hibou. Mon gracieux seigneur, dit Comines. Comme nous allions revenir de la forêt, nous avons rencontré le comte de Crèvecœur. Comment? S'écria le duc. Déjà revenu du Brabant? Mais il y a tout trouvé en bon état, sans doute. Le comte lui-même va vous rendre compte de sa mission, dit d'Hymbercourt. Il ne nous a qu'imparfaitement renseignés. Par mon corps, où est le comte? Demanda le duc. Il change d'habit pour rendre ses devoirs à votre Altesse, répondit d'Humbercourt. Changer d'habit? Saint-Bleu! S'écria l'impatient prince. Eh, hey, que me fait son habit? Je crois que vous vous êtes entendu avec lui pour me rendre fou. Ou plutôt, à parler franchement, dit Comines, il désire vous communiquer les nouvelles en particulier. Teste Dieu! Monseigneur le roi, dit Charles, voilà comme nos conseillers nous servent toujours. S'ils ont appris quelque chose qu'ils considèrent comme important à notre oreille, les voilà aussi graves et aussi fiers de leur fardeau qu'un âne de sa selle neuve. Que l'on m'amène Crèvecœur immédiatement. Il vient des frontières de Liège, et nous, du moins, nous n'avons de ce côté aucun secret que nous rougissions d'entendre proclamer devant l'univers assemblé. À la fin, Crèvecœur entra. Charles lui demanda brusquement. Quelle nouvelle de Liège et du Brabant, sire comte? L'annonce de votre arrivée a chassé la gaieté de notre table. Nous espérons que votre présence va l'y ramener. Monseigneur est maître, répondit le comte avec un mélange de mélancolie et de fermeté. Les nouvelles que j'apporte sont plutôt pour la table du conseil que pour celle du festin. Dites-les, l'ami, quand ce serait des nouvelles de l'Antéchrist, s'écria le duc. Mais je les devine. Les Liégeois sont encore en révolte. Oui, monseigneur, répondit gravement Crèvecœur. Attention, l'ami, dit le duc. J'ai deviné du coup ce que tu avais si grand peur de m'apprendre. Ces bourgeois, cervelle de lièvre, sont encore en armes. Cela ne pouvait mieux tomber, car nous pouvons, sans délai, avoir l'avis de notre suzerain. Il adressa un salut au roi Louis avec un regard où on lisait le plus amer ressentiment, soigneusement réprimé. Il nous apprendra comment il convient de les traiter. As-tu encore d'autres nouvelles? Dis-les vite. Et explique-moi aussi pourquoi tu ne t'es pas porté au secours de l'évêque. Monseigneur, les autres nouvelles? Il m'est dur de les dire, et il vous sera dur de les entendre. Ni moi, ni toute la chevalerie du monde, nous n'aurions rien pu pour l'excellent prélat. Guillaume de la Marck, uni aux Liégeois insurgés, a pris d'assaut le château de Schoenwald et assassiné l'évêque dans sa propre salle de festin. Assassiner l'évêque, répéta le duc d'une voix profonde et sourde, qui fut néanmoins entendue d'un bout à l'autre de la salle. Tu t'en es laissé imposer, Crèvecœur, par quelque rapport mensonger. C'est impossible. Hélas, monseigneur, dit Crèvecœur, je tiens la nouvelle d'un témoin oculaire, archer de la garde écossaise du roi, qui était dans la salle au moment où l'évêque a été assassiné sur l'ordre de Guillaume de la Marck. Et qui sans doute a prêté les mains à cet horrible sacrilège? S'écria le duc, se levant et frappant du pied avec une fureur telle qu'il brisa le tabouret placé devant lui. Fermez les portes de cette salle, gentilhomme, et assurez-vous des fenêtres, qu'aucun étranger ne bouge de son siège sous peine de mort. Gentilhomme de ma chambre, tirez vos épées. Alors, se tournant vers Louis, il porta délibérément sa main à la garde de son épée, tandis que le roi, sans montrer aucune crainte, sans même se mettre en attitude de défense, se contentait de lui dire. Ces nouvelles, mon beau cousin, ont ébranlé votre raison? Non, répliqua le duc avec un accent de voix terrible. Mais elles ont réveillé mon juste ressentiment, que j'ai trop longtemps étouffé par de banales considérations de circonstances et de lieux. Assassin de mon père, rebelle contre ton père, tyran de tes sujets, allié perfide, roi parjure, gentilhomme déshonoré, tu es en mon pouvoir et j'en rends grâce à Dieu. Rendez-en grâce plutôt à ma folie, dit le roi. Car quand nous nous sommes rencontrés sur le même pied à Montlhéry, vous souhaitiez, je crois, d'être moins près de moi que vous ne l'êtes en ce moment. Le duc avait toujours la main sur la garde de son épée, mais il ne se décidait pas à dégainer et à frapper un ennemi qui n'opposait aucune résistance et ne fournissait aucun prétexte à un acte de violence. Cependant, une affreuse confusion régnait dans toute la salle. Les portes étaient fermées et gardées par ordre du duc. Mais quelques nobles de France, en dépit de leur petit nombre, s'élancèrent à la défense de leur souverain. Dunois fut le premier à élever la voix. Sire duc, dit-il, vous avez oublié que vous êtes vassal de la France, et que nous, vos hôtes, nous sommes français. Si vous levez la main sur notre monarque, préparez-vous à éprouver les plus terribles effets de notre désespoir, car, croyez-moi, nous ferons aussi volontiers fête au sang qu'au vin de Bourgogne. Courage, monseigneur d'Orléans, et vous, gentilhomme de France, serrez-vous autour de Dunois et faites ce que vous lui verrez faire. Le premier qui répondit à ce généreux appel, ce fut le vénérable Lord Crawford. Avec une agilité que l'on n'aurait pas attendue de son âge, il se fraya un passage jusqu'à Dunois. Il est vrai qu'il n'avait pas rencontré une trop violente résistance, car beaucoup de Bourguignons, soit par point d'honneur, soit par un secret désir de sauver Louis du péril imminent où il se trouvait, s'étaient écartés devant lui. Il posa alors son bonnet sur le côté de sa tête. Ses joues pâles et son front ridé se colorèrent, et ses yeux lancèrent des éclairs comme ceux d'un brave, tout prêt à tenter un coup désespéré. Il avait rejeté son manteau sur son épaule pour l'enrouler autour de son bras gauche, pendant que de la main droite il tirait son épée. Je me suis battu pour son père et pour son grand-père, dit-il, et par Saint-André, advienne que pourra, mais je ne lui ferai pas défaut à lui, à l'heure du danger. Le duc de Bourgogne, la main toujours posée sur la garde de son épée, allait donner le signal d'une lutte qui aurait fini par la défaite du parti le plus faible, lorsque Crèvecœur se précipita en avant et dit d'une voix qui avait le son éclatant de la trompette: Monseigneur de Bourgogne, prenez garde à ce que vous faites. Dans cette salle, vous êtes chez vous. Vous êtes le vassal du roi. Ne répandez pas le sang de votre hôte sur votre foyer, le sang de votre souverain sur le trône que vous avez élevé pour lui et où il est venu s'asseoir, sur un sauf-conduit de vous. Pour l'honneur de votre maison, ne vengez pas un meurtre horrible par un meurtre plus horrible encore. Ôtez-vous de mon chemin, Crèvecœur, répondit le duc, et laissez passer ma vengeance. Ôtez-vous de mon chemin. La colère des rois est redoutable, autant que celle du ciel. Seulement quand elle est juste comme celle du ciel, repartit Crèvecœur. Laissez-moi vous prier, monseigneur, de mettre un frein à la violence de votre caractère, encore que vous soyez justement offensé. Quant à vous, mes seigneurs de France, là où la résistance est inutile, laissez-moi vous recommander d'éviter tout ce qui pourrait amener l'effusion du sang. Il a raison, dit Louis, mon cousin d'Orléans, mon bon Dunois, et vous, mon fidèle Crawford, gardez-vous de tout perdre et d'amener l'effusion du sang par une humeur trop pointilleuse. Notre cousin le duc est hors de lui en apprenant la mort d'un ami intime et cher, le vénérable évêque de Liège, dont nous déplorons le meurtre aussi amèrement que lui. D'anciens et malheureusement aussi de récents sujets de jalousie le portent à nous soupçonner d'avoir trempé dans un crime que notre cœur abhorre. Si notre hôte devait nous tuer sur place, nous, son roi et son parent, parce qu'il se figure à tort que nous sommes pour quelque chose dans ce malheur, tout ce que vous pourriez tenter aggraverait notre sort au lieu de l'améliorer. Ainsi donc, arrière Crawford. Quand ce devrait être ma dernière parole, je vous parle comme un roi à son officier. Et je vous somme d'obéir. Arrière, et s'il le faut, rendez votre épée. Je vous le commande, et votre serment vous oblige à m'obéir. C'est vrai, monseigneur, dit Crawford en se retirant et en remettant l'épée au fourreau. Cela peut être parfaitement vrai, mais si j'avais ici une soixantaine de mes braves, j'essaierais d'avoir raison de ces beaux galants si bien ajustés. Le duc demeura longtemps les regards fixés sur le sol, puis il dit, avec une amère ironie: Crèvecœur, vous avez raison. Il importe à notre honneur que nous remplissions avec moins de hâte nos obligations envers ce grand roi, cet hôte affectueux et honoré. Nous agirons de telle sorte que toute l'Europe reconnaîtra la justice de nos actes. Gentilhomme de France, rendez vos armes à mes officiers. Votre maître a rompu la trêve et a perdu tout droit d'en tirer avantage. Par compassion néanmoins pour vos sentiments d'honneur, par respect pour le sang qu'il a déshonoré, pour la race dont il a dégénéré, nous ne demandons pas l'épée de notre cousin Louis. Pas un de nous, dit Dunois, ne rendra son épée. Pas un de nous ne sortira d'ici sans être bien et dûment assuré que la vie de notre roi n'est pas en danger. Pas un homme de la garde écossaise, s'écria Crawford, ne déposera les armes, sauf sur ordre du roi de France ou de son grand connétable. Brave Dunois, dit Louis, et vous, mon fidèle Crawford, votre zèle me fera plus de mal que de bien. J'ai plus de confiance, ajouta-t-il avec dignité, dans la justice de ma cause que dans une vaine résistance, qui coûterait la vie à mes plus braves et à mes meilleurs serviteurs. Rendez vos épées. Les nobles bourguignons qui acceptent des gages si honorables seront mieux en état que vous de nous protéger, vous et moi. Rendez vos épées, c'est moi qui vous le commande. Crawford, sur l'ordre du roi, jeta son épée à Crèvecœur, en disant « Prenez-la, et grand bien vous fasse, avec l'aide du diable. Son légitime possesseur ne rougit pas de la rendre, puisqu'on n'a pas joué franc jeu. Arrêtez, gentilhomme, dit le duc d'une voix entrecoupée, d'un homme que la colère empêche presque de parler. Gardez vos épées. Il suffit que vous promettiez de ne pas vous en servir. Et vous, Louis de Valois, considérez-vous comme mon prisonnier, tant que vous ne vous serez pas justifié d'avoir été fauteur de meurtre et de sacrilège. Qu'on le garde au château dans la tour d'Herbert. Qu'il ait si gentilhomme de sa suite pour le servir, ce qu'il voudra. Mylord de Crawford, votre garde doit quitter le château. On la cantonnera honorablement ailleurs. Qu'on lève tous les ponts-levis et qu'on baisse toutes les herses. Triple garde aux portes de la ville. Qu'on ramène le pont flottant à la rive droite de la Somme. Qu'on mette ma bande de wallons noirs autour du château et que l'on triple les sentinelles à chaque poste. Vous, d'Humbercourt, veillez à ce que des patrouilles à pied et à cheval fassent le tour de la ville toutes les demi-heures pendant la nuit et toutes les heures pendant la journée de demain. Si toutefois cette vigilance est nécessaire après le lever du jour, car il se peut que nous allions vite en besogne dans cette affaire, vous répondrez sur votre vie de la personne de Louis. Il s'éloigna de la table avec une hâte farouche, lança au roi un regard de haine mortelle et se précipita hors de la salle.